Quand vous regardez une vidéo YouTube, c'est inévitable maintenant d'avoir une publicité au début de la vidéo, à moins que vous aviez un abonnement. Il en va de même pour la prédication dominicale. Qui d'entre vous est abonné au journal Vivre ? Ah ouais, quand même quelques personnes. Le journal Vivre est le journal que notre fédération d'église Lafray édite. Tous les 2 mois, un journal traitant de sujets de théologie, d'actualité. Et il y a de temps en temps des articles de Michel Sigrist, membre de notre église, dans ce journal. Voilà, pour ceux qui connaissent Michel et qui ne sont pas encore abonnés à Vivre, ne le faites-le, ne serait-ce que pour lire ces articles. Voilà, la publicité est terminée. Vous n'avez pas pu cliquer sur « Ignorer », vous étiez obligé de la subir jusqu'au bout. Mais ceux qui ont lu le journal Vivre, est-ce que vous avez vu un article sur le journal de janvier-février qui s'intitulait « Être pasteur en 2025, c'est ». Qui se souvient de l'avoir lu ? Alors, être abonné, c'est une chose. C'est un bon début. Un article était intitulé « Être pasteur en 2025, c'est ». Et plusieurs collègues y apportent des réponses. Nourrir et soutenir une communauté, travailler en équipe pour bien diriger une communauté, être accessible, agile et créatif, tout en ayant des convictions. Alors ce matin, la question que j'aimerais vous poser, c'est « Être église en 2025, c'est ». Je vous laisse quelques temps pour y réfléchir. Être église en 2025, c'est. C'est quoi ? Avoir des convictions. Avoir des convictions, c'est... Merci Bernard, il y en a un qui écoute. Être en marche. Aimer son prochain. Être accueilli. Être proche de Jésus. Manifester ses dons, Anne-Claude, oui. Être accueillant.
Parler de Jésus.
Aimer Dieu. On pourrait encore ajouter plein d'autres choses. Quand on se pose la question de ce qu'est l'Église en 2025, cette question nous invite aussi à redécouvrir nos débuts. Et nous trouvons les débuts de l'Église dans le chapitre 2 de l'Évangile, du livre des Actes, pardon. Ce chapitre 2 raconte le début de l'Église naissante. Alors pour faire un petit topo du chapitre 2, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a d'abord l'événement de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend sur les disciples et ils annoncent la bonne nouvelle de la résurrection de Christ en différentes langues. Alors il y a un peu de confusion, certains se disent « Ah ben ça y est, ils sont ivres », d'autres certainement disent « Peut-être pas ». Et là, Pierre intervient et il donne une prédication qui est assez remarquable puisqu'il y a 3000 personnes qui se convertissent ce jour-là. Voilà le chapitre 2 du livre des Actes. Et puis, nous nous trouvons juste après ces événements, au verset 41 à 47, où Luc prend le temps de nous décrire la situation de la jeune église naissante. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a besoin de la commenter ? Tout est clair, non ? Alors allons-y. Il y aura un peu de vécu ce matin. Je n'ai pas trouvé quoi dire, c'était tellement clair dans le texte. Donc on va le vivre plutôt que le prêcher. Mais peut-être un mot sur chapitre 2 du livre des Actes. Quand je lis le chapitre 2 des Actes, moi qui aime bien les choses structurées, je vois ce chapitre 2 du livre des Actes comme une... comme une fourmilière. Vous voyez l'image d'une fourmilière, ça part dans tous les sens, c'est un chaos pas possible. C'est comme ça que je vois le livre des Actes. Cependant, les fourmis savent très bien ce qu'elles ont à faire. Elles le font très bien. Chacune a son travail et l'accomplit. Alors, dans ce chaos, je suis content que Luc, qui est le rédacteur du livre des Actes, m'aide un petit peu à structurer ce passage. Et il nous propose la structure suivante. Une structure qui met en valeur, rien du tout, le partage des biens. On voit qu'il y a des conversions, le peuple se tourne vers Dieu, il y a un vécu de culte ensemble, au verset 42, il nous est rappelé au verset 46, et le point culminant de ces versets, c'est la mise en commun des biens. Certainement pour montrer la radicalité aussi de l'Église naissante, le partage des biens. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient et répartissaient selon les besoins. N'ayez crainte, ce n'est pas ma conclusion. Ça, c'est bon. Mais il y a quand même quelque chose, hein. Et dans ces versets, moi je suis touché parce que je vois toute la puissance de la Pentecôte. Oui, il y a le Saint-Esprit qui descend, oui, l'Évangile est proclamé dans différentes langues, mais quand même, de rassembler un groupe de bonhommes complètement différents des uns des autres, au point qu'ils vendent et partagent leurs biens, je trouve assez phénoménal quand même. On pourrait dire surnaturel. Et avant ce partage des biens, on nous explique le culte, ce que les chrétiens faisaient. On les retrouve au verset 42 et 46. Et là, on peut voir quatre marques qui semblaient fondamentales pour l'Église naissante. Alors, quelles sont ces quatre marques? Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Premier point d'importance. Il s'agissait de garder l'enseignement des apôtres qu'ils avaient reçu eux-mêmes de Jésus-Christ. Cet enseignement était mis par écrit, le Nouveau Testament. Ancien ou Premier Testament et Nouveau Testament forment la parole de Dieu. C'est l'enseignement que nous devons garder aujourd'hui, Église en 2025. Garder cet enseignement, ne pas l'édulcorer, ni l'oublier. Cet enseignement, c'est l'Évangile. L'Évangile qui raconte la vie de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection pour sauver beaucoup d'hommes et de femmes. L'Évangile, c'est le fondement de l'Église. Si on oublie ce fondement, je crois que l'Église perd peu à peu de sa raison d'être. Et ce n'est pas pour rien que Paul insiste auprès de Timothée qui lui dit « Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. » Ça, c'est un encouragement, mais Paul présente aussi plus loin les conséquences. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfutée, reprend et encourage. Ça, c'est le verset préféré des pasteurs. On peut s'entêter à proclamer la parole, quel que soit le résultat. Finalement, nous, on prêche. Qu'il soit favorable ou non. Paul continue, fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. C'est là que ça se complique pour le pasteur. En effet, viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Paul révèle bien l'enjeu. Ce n'est pas acquis de garder la saine doctrine. On peut vite s'en détourner, c'est même peut-être notre côté naturel de se rebeller contre l'évangile et de chercher ce qui fait finalement plaisir. Je crois que l'évangile provoque quand même une tension entre notre vie d'église, ce que nous aspirons, ce que l'évangile nous dit, et ce que le monde nous dit aussi. J'ai récemment lu l'histoire d'un pasteur qui avait repris une église, qui péclotait un petit peu depuis une bonne décennie. C'était pas la joie. Et puis, après sa venue dans l'église, l'église a rapidement connu une croissance et a finalement retrouvé la pleine santé. Et puis on a demandé à ce pasteur, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ça redémarre comme ça? Puis le pasteur savait pas trop, si ce n'est qu'il avait pris au sérieux cet avertissement de Paul de prêcher fidèlement la parole. Je crois qu'il y a une bénédiction pour les églises qui s'attachent à garder la parole de Dieu. Ça n'exclut pas le pluralisme dans nos interprétations de sujets peut-être secondaires. Au contraire, je crois que ce pluralisme est à valoriser. Mais gardons la centralité de l'Évangile. Christ mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. C'est peut-être là notre premier devoir en tant qu'Église. Et c'est là aussi le but des confessions de foi. Avoir un guide pour ne pas dévier. Garder le bon dépôt, c'est une bénédiction, mais c'est peut-être aussi source d'opposition ou de persécution. L'Église qui a cherché à être fidèle à la parole de Dieu s'est souvent confrontée à des oppositions. Et l'Église persécutée est un témoignage vivant. Il garde la parole de Dieu. Plutôt que se conformer aux dirigeants, au monde, ils gardent ce dépôt de la parole de Dieu et ça leur coûte parfois la vie. Alors pour faire face à ces oppositions, c'est important de faire corps. Et c'est ce qui m'amène au deuxième point, la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, certains y ont vu simplement la Sainte Cène. Et je trouve assez intéressant le commentaire de Calvin qui voit derrière cette communion fraternelle des repas partagés ensemble. Dans l'Antiquité, la plupart des groupes sociaux mangeaient ensemble une fois par mois. Ils se réunissaient, ils parlaient de leurs affaires et ça se faisait à peu près une fois par mois. Et au verset 46, Luc nous donne un détail intéressant. C'est qu'il dit que l'Église se rassemblait chaque jour. Pas une fois par mois, mais chaque jour, avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Cette pratique du repas partagé est digne d'intérêt. Ils y partageaient leurs réflexions sur l'Écriture. Ils priaient ensemble, ils priaient les uns pour les autres. Quand on invitait quelqu'un à table, ça montrait l'intimité de la relation et la confiance. On n'invitait pas n'importe qui à notre table. On invitait les gens qui étaient intimes et en qui on avait confiance. Alors cette marque de l'Église primitive nous heurte peut-être dans notre société individualiste. Mais je crois que la communion fraternelle devient essentielle quand l'Église traverse des temps difficiles. Particulièrement quand l'Église traverse des temps difficiles. Une autre histoire de pasteur, j'ai discuté avec un pasteur on parlait du Covid. Et je lui ai dit que j'étais content d'être en stage quand il y a eu le Covid et puis après dans l'industrie quand ça s'est terminé. Et lui m'a dit, mais en fait, nous, on n'a pas eu de soucis d'église. Le Covid, ça n'a pas impacté notre vécu d'église. Car il y avait une communion fraternelle qui était solide. Finalement, se rencontrer dans un lieu de culte commun, ça avait peu d'importance parce que les liens en dehors étaient solides. Chacun des membres a pu être accueilli ou accueillir dans les maisons. Alors si le livre des Actes nous parle de repas partagés ensemble, c'est bien sûr un modèle que nous pouvons reproduire aujourd'hui, mais peut-être aussi un simple message WhatsApp, un coup de téléphone, une invitation pour un café. Toutes ces choses-là font partie de la communion fraternelle. Et le point fort de la communion fraternelle, c'est ce troisième point qui se vivait dans les maisons, c'est la fraction du pain. Les chrétiens pratiquaient la fraction du pain et il y a une logique d'y voir la Sainte Cène. La Sainte Cène, le repas que le Seigneur a donné à son Église. Pendant qu'ils étaient rassemblés, les chrétiens partageaient la Sainte Cène ensemble. C'était l'élément central de leur communion. Et ce repas, nous le retrouvons encore presque 2000 ans après dans nos cultes. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce repas, cette fraction du pain, c'est que c'est Jésus-Christ lui-même qui nous y invite. Nous n'avons rien besoin d'apporter, si ce n'est confesser notre besoin d'être au bénéfice de sa grâce. Ce repas nous met toutes et tous à égalité devant le sacrifice d'amour de Christ. Ce repas nous met toutes et tous à égalité devant la justice de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de sa grâce. Quand Jésus a pris ce repas avec ses disciples, il leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Plutôt que de développer davantage ce point, j'aimerais vous inviter à vivre la scène maintenant. Et nous poursuivrons cette prédication un peu plus tard. Et je poursuis ma prédication avec le quatrième point, le quatrième pilier de l'Église primitive qui est la prière. Plutôt que parler 5 minutes ou 10 minutes sur la prière, je vous invite à vivre ensemble, en communauté, un temps de prière. Un temps de prière pour l'Église, pour la mission, pour que l'Évangile se répande, et peut-être, pourquoi pas, les uns pour les autres. Nous venons de voir les 4 marques de l'Église primitive. Alors, celles et ceux qui écoutent l'audio, je ne sais pas tellement ce que ça va donner sur votre audio. Nous avons pris un moment de pause pour vivre la scène et prier pour l'Église, et nous reprenons maintenant. Nous avons terminé les 4 marques, et nous pouvons aller au centre de cette structure qui est le partage des biens. Amen. J'aime ces petits moments de flottement comme ça. Ce point n'est pas à prendre de manière déconnectée des autres. Je pense qu'il est encadré par cette structure de culte, la prière, la fraction du pain, la communion fraternelle, garder l'enseignement des apôtres. Et quand on lit le partage des biens, bah je vous le relis, hein, comme ça on se fait du bien. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Alors en grec ça veut dire la même chose, hein. Donc c'est pas une histoire de traduction. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut vendre tous ses biens et les répartir les richesses ? Est-ce que Luc nous donne un modèle à suivre aveuglément ? Reconnaissons que Luc dépeint des standards élevés. Mais son but n'est pas de nous faire culpabiliser. Il est en train de nous décrire ce qui se vit dans l'Église primitive. Le but n'est pas de faire culpabiliser. Et ces standards qui paraissent très élevés ne sont pas à reproduire en une imitation aveugle, mais plutôt à saisir l'esprit qui animait l'Église primitive. Et cet esprit, pour les premiers chrétiens, c'était de valoriser les personnes plutôt que les biens. Dans l'Empire romain, les hiérarchies sociales étaient assez cloisonnées et valorisaient souvent les biens au profit des personnes. Si on était esclave, pas de chance. Et certainement qu'à la Pentecôte, il y avait toutes les classes sociales qui étaient mises ensemble dans l'Église. Et il n'y avait pas non plus le système social que nous connaissons en Suisse. Donc autant vous dire que les pauvres n'avaient rien, même pas d'identité suivant quoi. Cette invitation demeure quand même pour nous à valoriser les personnes par rapport aux possessions matérielles. À la Pentecôte, j'aime beaucoup ce que dit un commentateur, à la Pentecôte, le Saint-Esprit provoque la naissance d'une communauté qui ne vise pas à assouvir des besoins religieux individuels, il organise un vivre ensemble qui témoigne d'un salut partagé. Et je crois que quand on lit ce partage des biens, c'est cela qu'il faut voir. Ce n'est pas une imitation aveugle, mais d'être décentré des possessions matérielles et de se concentrer sur l'individu, sur les autres, sur les besoins des autres. Finalement, c'est aussi se mettre à égalité en disant « je fais partie d'un corps ». Le partage des biens est un élément central de la vision de Luc. Et ce partage des biens a conduit à un impact très large sur la société qui l'entoure. Ce partage des biens, nous le vivons régulièrement, dimanche après dimanche, avec un temps d'offrande. L'offrande, c'est une manière de mettre nos biens en commun pour l'Église et pour qu'elle puisse poursuivre sa mission. Le partage des biens, finalement, ne consiste pas simplement à regarder nos finances ou notre superflu, mais il nous invite à porter le regard un petit peu plus loin, vers les besoins des autres, de la communauté. L'offrande, ce n'est pas seulement centré sur moi-même avec Dieu. C'est aussi discerner les besoins des uns et des autres de la communauté. Dans l'offrande, on peut y mettre quelque chose, on peut aussi laisser passer les paniers. Luc n'invite pas à une imitation aveugle, ni à un légalisme d'il faut donner, mais il invite à une introspection de nos richesses, de ce que nous possédons, et il invite aussi à adopter un regard plus large sur la communauté. Et c'est dans cet état d'esprit que j'aimerais vous inviter à vivre ce temps d'offrande. Les personnes qui sont désignées pour l'offrande peuvent faire circuler les paniers, il y a un code QR Twint qui va s'afficher. Que durant ce temps, nous ne puissions placer ces versets de partage des biens devant Dieu et nous laisser interpeller par ce qu'il désire faire de nos richesses, de ce qu'il nous confie. Peut-être de manière plus large, le Seigneur nous invite à considérer tout ce que nous avons chez nous, qui n'est pas forcément des biens financiers, mais qui peut peut-être aider une personne de la communauté. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous lisons dans ce livre des Actes que les premiers chrétiens mettaient tout leur bien en commun pour pouvoir le distribuer entre eux. Seigneur, ces versets nous interpellent à regarder plus largement, à regarder les besoins de la communauté. Seigneur, l'Église n'est pas simplement une œuvre sociale que nous soutenons. Nous avons cette mission, ce mandat d'annoncer l'Évangile, de rayonner ce beau message de l'Évangile. Et Seigneur, nous te prions que cette offrande récoltée ce matin serve dans notre mission d'Église, de te faire connaître autour de nous. En ton nom, Jésus. Amen. Voilà, nous venons de faire un petit parcours de ce qui se vivait dans l'Église primitive. Nous avons vécu aussi certains aspects. Le deuxième point, celui des repas, je vous laisserai le gérer à l'après-culte, voir ce que vous voulez faire. Ce matin, nous avons tourné les yeux vers le passé, regardé vers cette Église primitive, pour finalement donner un sens à notre présent, nous rappeler notre raison d'être. J'aimerais conclure avec cette question que je vous laisse. Quelle marque de l'Église primitive vous touche particulièrement? Et pourquoi? Et comment l'incarner davantage dans ma vie et dans celle de l'Église? Vaste question.